qui doivent en même temps servir un petit peu, j'allais dire, de méditation. Puisque ce grand Saint-Martin nous oblige à faire un examen de notre attitude par rapport au royaume de Dieu. Alors, c'est M. Jean-Marie Picoche. Jean-Louis Picoche qui va nous faire ces deux conférences. Je vous le présente, c'est un professeur et écrivain. Professeur à la Sorbonne à un moment donné, et pas à des dates extraordinaires, plutôt en 69, donc après 68, c'est vous dire, au moment des grands palabres. Bon. Et il a été également professeur à Lille, plus longtemps c'était à l'université de Lille.
Oui. Voilà.
Et il est professeur d'espagnol, mais, enfin, dans les, en université, mais en même temps il est historien, se penchant justement sur ces questions d'histoire, aussi bien en France qu'en Espagne. Alors, il va nous parler aujourd'hui de Saint-Martin. Nous soyons attentifs. Pour vous favoriser la conférence, il nous a envoyé ces imprimés que vous avez, qui précisent évidemment l'époque, les références historiques un petit peu, pour que vous situiez bien Saint-Martin. Enfin, je n'ai pas devancé la conférence, mais vous savez, il y a une grande crise de l'arianisme, il vous expliquera ce que c'est, et nous avons des parallèles à pouvoir faire aujourd'hui. Donc, écoutons bien, soyons attentifs, et après nous pourrons profiter de ces livres, qui vous dédicacera. Voilà, je lui laisse la parole, pas anticipé.
Bien. Je remercie beaucoup le père Parmasiac de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette récollection. Et je vais tout de suite commencer, comme je vois que nous avons pris un petit peu de retard, je vais tout de suite commencer cette première conférence en vous disant que là, tout de suite, vous entendrez assez peu parler de Saint-Martin, malgré ce qu'on vous a annoncé. Cela peut vous sembler curieux, étant donné qu'on vous a annoncé Saint-Martin. Mais, en réalité, le père Marziac m'a demandé de faire une première conférence sur la situation de l'Église au IVe siècle, c'est-à-dire pendant la vie de Saint-Martin. Et je crois que ce n'est pas inutile parce que cette situation de l'Église au IVe siècle ressemble beaucoup à la nôtre. Et vous le verrez, c'est très proche. Nous avons des situations très proches de celles que nous vivons en ce moment. Alors je commence tout de suite en vous parlant de Saint-Martin pour commencer, hein, quand même. Les dates probables de Saint-Martin, dont je parlerai plus longuement ce soir, sont 316-397. Il serait né en 316. Il est mort, c'est sûr, en 397, donc il y a exactement 1600 ans. C'est-à-dire qu'il occupe la presque totalité du IVe siècle. Certains historiens, dont Loury, reculent sa naissance jusqu'à 336. Je crois que ça ajoute des difficultés chronologiques au lieu d'en retirer. Je crois que la date de 316 est bien préférable. En tout cas, de toute façon, c'est pas ça qui nous occupe beaucoup. Ce qui nous occupe, c'est que la période dans laquelle vivra Saint-Martin, c'est une période cruciale pour l'Église qui est marquée d'une part par une chose extrêmement bénéfique pour l'Église, c'est la fin des persécutions impériales, mais une chose extrêmement dommageable, par contre, la floraison des hérésies, dont certaines, comme l'arianisme, vont être elles-mêmes persécutrices. C'est-à-dire que les chrétiens, aussitôt tranquilles au point de vue politiques, vont s'empresser de se persécuter entre eux. Alors, vision d'ensemble de cette époque, c'est un siècle extrêmement important au point de vue historique et religieux. Nous sommes encore, et encore pour un certain temps, encore pour un bon siècle, dans l'Empire romain qui peut encore paraître puissant, paraître s'imposer au reste du monde, mais empire qui est souvent partagé en deux parties, Orient et Occident, quelquefois même partagé en trois. Je vous invite à vous référer à la liste des empereurs que vous avez, des empereurs romains, et vous pouvez constater que très souvent, l'Empire romain donc est partagé entre deux empereurs, quelquefois même entre trois. On a par exemple Constantin II et Constant Ier qui se partagent à eux deux l'Empire d'Occident. Et ça arrive plus d'une fois. Et il faut des personnalités fortes comme Constantin, comme Julien, dont il y a beaucoup à dire, mais qui était une forte personnalité, comme Théodose, pour arriver à réunir l'Empire complet sous une seule main. Et ce qui est net, c'est que l'Empire romain n'est pas mort des invasions barbares. En réalité, les invasions barbares avaient commencé au IVe siècle et à la fin même du IIIe siècle, mais avait été stoppé net. Mais elles vont reprendre surtout au Ve siècle. Donc le IVe siècle est, disons, une période d'apaisement dans les invasions barbares. Mais ce n'est pas de cela qu'est mort l'Empire romain. L'Empire romain est mort essentiellement des dissensions internes, des luttes politiques, des invasions sournoises, beaucoup plus que brutales. Et en est témoin la succession accélérée des empereurs. Pratiquement, les empereurs étaient tous plus ou moins proclamés empereurs par leurs troupes, et au bout de quelques années de règne, ils se faisaient assassiner par les propres soldats qui les avaient proclamés. Donc, Saint-Martin va mourir en 397. L'Empire romain va lui survivre encore près d'un siècle, puisque l'Empire romain, du moins l'Empire romain d'Occident, va capituler complètement en 476 avec la déposition de Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident. Mais, disons, après Saint-Martin, il ne vivra plus que nominalement, puisque partout, pratiquement, ce seront les rois barbares qui vont gouverner. Et les invasions, alors vraiment les grandes invasions, vont commencer tout de suite, ou presque tout de suite, après la mort de Saint-Martin. Au point de vue religieux, dans ce siècle, nous avons l'édit particulièrement important, l'édit de Milan, la ville d'Italie bien sûr, Milan, qui se situe 3 ans avant la naissance de Saint-Martin, puisque c'est en 313. Et cet édit de Milan, octroyé par Constantin, marque la fin des grandes persécutions. C'est remarqué que Constantin n'abolit pas la religion païenne, les religions qui fleurissaient un peu partout, les diverses religions. Il laisse la liberté religieuse à tout le monde. Et il y aura ensuite une autre persécution qui sera la persécution de Julien, celui l'empereur Julien que l'on appelle Julien l'Apostat, empereur qui vivait beaucoup en Gaule et particulièrement à Lutèce, à Paris, où on a encore des restes de son palais. Mais ce Julien, qui était né chrétien, a voulu retourner à l'ancien culte païen. Il a voulu le renouveler, lui donner une nouvelle vigueur, et il s'est remis à persécuter les chrétiens, mais il l'a fait de façon un petit peu honteuse, disons. Disons, il les persécutait non pas nominalement parce qu'ils étaient chrétiens, mais sous d'autres prétextes. Vous voyez, on essayait de leur trouver dans leurs feuilles d'impôt des choses qu'ils ne connaissaient pas très bien, des choses comme ça. Bon. Et puis, de toute façon, Julien va mourir en 363 dans une guerre contre la Perse, et à ce moment-là, il n'y aura plus de persécution, disons, de persécution officielle. Mais il faut savoir que au IVe et au Ve siècle va se développer une hérésie, beaucoup d'hérésies de toutes sortes, mais il y en aura une particulièrement virulente qui s'appellera l'arianisme. Alors, quand je parlerai d'arien et d'arianisme, surtout ne faites pas de confusion, il ne s'agit pas de la race arienne qui s'écrit avec un Y, hein. Alors là, c'est absolument pas ça, ça n'a rien à voir, il s'agit de l'hérésie qui a été prêchée et inventée par un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius, et c'est pourquoi on l'appelait arianisme. Donc pas de confusion à ce sujet-là. Mais remarquez bien que à ce moment-là, et on verra, presque tous les évêques, qu'ils soient alors surtout en Orient, mais également en Occident, presque tous les évêques sont ariens. C'est-à-dire qu'à cette époque, pratiquement presque tous les évêques se deviennent hérétiques. Et si vous avez ici, en Occident et en Orient, de nombreux saints que vous trouverez ici, en Orient, saint Paul de Thèbes, saint Pacôme, saint Antoine, saint Athanase d'Alexandrie, etc., etc. Bon, vous avez la liste, c'est pas la peine que je vous la... En Occident, saint Hilaire de Poitiers, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, saint Paul Amiel, ce sont de très grands saints qui restent encore très vivants à l'heure actuelle. Eh bien, c'est parce que la plupart du temps, ce sont des évêques, et des évêques qui font tâche parmi les autres, des évêques qui ont résisté alors que la plupart étaient ariens, étaient hérétiques. Ces hérésies, remarquez, ont eu au moins comme avantage celui de forcer les chrétiens à établir des définitions, et en particulier une définition de la Trinité, grâce à plusieurs conciles et en particulier deux conciles œcuméniques qui ont eu lieu dans la période qui nous occupe, le concile de Nicée en 325, celui de Constantinople en 381. Et notez bien que Saint-Martin n'a pris part à aucun de ces deux conciles. Il était trop jeune en 325, il était trop vieux et surtout trop éloigné de Constantinople en 381. Mais il a assisté à beaucoup de conciles provinciaux, ceci jusqu'en 385. À partir de 385, il n'a plus voulu assister à aucun concile, vous verrez tout à l'heure, enfin cet après-midi, vous verrez pourquoi. Et donc, je vais vous parler maintenant de l'arianisme en particulier. Qu'est-ce que c'est que l'arianisme ? Bon, au siècle précédent, il y avait eu déjà des hérésies, mais l'arianisme a été l'hérésie la plus grave et la plus longue qui s'est développée pendant la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. En fait, le baptême de Clovis, pratiquement un siècle après la mort de Saint-Martin, le baptême de Clovis qui se convertit non pas à l'arianisme, comme c'était prévisible, mais au catholicisme orthodoxe, ça a été une divine surprise. Et certainement que Saint-Martin y a pour quelque chose là-dedans, nous verrons ça plus tard. Alors qu'est-ce que c'était que Arius. Arius, qui est à l'origine de l'arianisme, c'était un prêtre d'Alexandrie, donc en Égypte, qui avait déjà eu une excommunication parce qu'il avait adhéré à un schisme qui s'appelait le schisme milésien. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais disons que c'était quelqu'un qui n'était pas très net déjà au départ. Vers 318, très peu de temps après l'édit de Milan, alors qu'il était âgé d'environ 60 ans, il se met à prêcher à Alexandrie une doctrine que l'on peut résumer rapidement. Le Verbe, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est pas éternel. C'est-à-dire, il a eu un commencement. Et Dieu le Père, ne l'a pas engendré, il l'a créé. Alors, quelle est la place du Verbe, quelle est la place de Jésus-Christ? Ah ben, la place est très importante, oui. Parce que c'est le Verbe qui a créé le monde. Donc, si vous voulez, Arius considère que la création du monde s'est faite en deux étapes. Premièrement, le Père s'est contenté de créer quelqu'un qui s'appelle le Verbe et qui s'incarnera en Jésus-Christ. Ensuite, le Verbe, lui, a créé l'univers. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'important. Et le Verbe lui-même va créer le Saint-Esprit. Donc, la troisième personne, ce que nous considérons comme la troisième personne de la Sainte Trinité, n'est qu'une création du Christ. Et par conséquent, le Saint-Esprit, c'est lui-même une créature. Créature, la plus parfaite de toutes, c'est une intelligence supérieure à toutes les créatures, mais néanmoins limitée, parce que, en fait, le Verbe n'est pas Dieu. Arius déclare, le Verbe, Jésus-Christ, n'a pas péché, mais il aurait eu la possibilité de le faire, étant donné qu'il n'a pas péché parce qu'il était d'une grande vertu, il s'est abstenu de péché, mais il aurait très bien pu le faire. Il est fils de Dieu par adoption, on lui rend en fait les honneurs dus à un Dieu parce que c'est la plus sainte des créatures, mais en réalité il n'est pas Dieu, ce n'est qu'une créature. Bon, l'hérésie d'Arius, si on veut bien, se détourne d'une bonne partie de l'enseignement des évangiles, en particulier du chapitre 1er de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean. Il se tient à une religion rationaliste. Religion rationaliste qui tente d'expliquer le mystère de la Sainte Trinité. D'ailleurs, un seul Dieu en trois personnes, pour nous, pour notre faible intelligence, ce n'est pas possible. À la limite même, ce serait absurde. Par conséquent, Arius s'est dit, puisque c'est absurde, puisque je ne comprends pas, il faut trouver le moyen de comprendre. Et le moyen de comprendre, eh bien, c'est ça, tout simplement. Au lieu de se heurtant à la difficulté, au lieu de dire, eh bien, je n'arrive pas à comprendre, et tant pis, c'est parce que mon intelligence n'est pas assez grande, eh bien, il va sauter par-dessus la difficulté en la niant, tout simplement, c'est un mouvement d'orgueil, je refuse de croire ce que je suis incapable de comprendre. Et alors, notez qu'au point de vue humain, Arius était un très grand orateur, très mondain, très austère à la fois, qui prêchait à la haute bourgeoisie d'Alexandrie et avait autour de lui un auditoire choisi, enthousiaste. C'était l'orateur à la mode, celui que l'on allait écouter, d'autant plus à la mode qu'il disait des choses surprenantes. Alors le credo arien est le suivant, Dieu est un, éternel, inengendré. Bon, il s'agit de Dieu le Père. Les autres êtres sont des créatures. Le logos, le verbe, tout le premier. Le verbe est créateur de tous les autres êtres. Ce rapport justifie le titre de Dieu, qui lui est donné improprement. Dieu l'a adopté comme fils en prévision de ses mérites, car le fils est libre, susceptible de changer, c'est par sa propre volonté qu'il s'est déterminé au bien, il aurait pu tout aussi bien le faire pour le mal. De cette filiation adoptive, il ne résulte aucune participation réelle à la divinité, aucune vraie ressemblance avec elle. Tout simplement parce que Dieu ne peut pas avoir de semblable. L'Esprit Saint, c'est la première des créatures du Logos, il est encore moins Dieu que lui. Le Logos s'est fait chair en ce sens qu'il remplit en Jésus-Christ la fonction d'âme. Voilà. Alors presque aussitôt, l'arianisme devient la tarte à la crème du moment, excusez-moi de cette expression vulgaire, mais c'est un peu ça. C'est la plupart des évêques adoptent l'arianisme. Or, constatez, le concile de Nicée a été réuni en catastrophe en 325, c'est-à-dire très peu de temps après le début de l'arianisme, précisément pour définir le dogme de la Sainte Trinité et pour contrer l'arianisme. Mais ça a été une sorte de miracle quand, 325 à Nicée, il se soit trouvé assez de pères conciliaires pour condamner l'arianisme. Et néanmoins, Nicée n'a pas du tout marqué de coup d'arrêt à l'arianisme, bien au contraire, puisque tout de suite après l'arianisme, il y aura de très nombreux conciles qui vont développer les thèses ariennes, on va y revenir. Et notez aussi que l'empereur Constantin le Grand, qui avait convoqué le concile de Nicée, c'est lui qui l'avait convoqué, qui avait financé tous les voyages des pères et tout leur hébergement, et ce n'était pas rien, et c'est lui donc qui avait voulu ce concile et qui avait voulu en quelque sorte la condamnation de l'arianisme, eh bien, Constantin va se faire baptiser très peu de temps avant sa mort, mais il va se faire baptiser par un évêque arien. Par conséquent, Constantin lui-même, lorsqu'il deviendra chrétien, deviendra arien. Et c'est un peu, en quelque sorte, Constantin va être un des premiers libéraux. En somme, l'empereur Constantin va être un libéral comme on le connaît actuellement. Et pendant ce temps-là, alors, autre chose très grave qui va avoir lieu pratiquement en même temps que Nicée, ou très peu de temps après, il y a un évêque de Nicomédie qui s'appelle Eusèbe, qui va faire la connaissance d'un noble Goth, d'un peuple qui se trouvait à ce moment-là, ils viendront vers l'actuelle Allemagne plus tard, mais à ce moment-là, ils se trouvaient pratiquement vers l'Ukraine, dans la région du sud de la Russie. Et voilà un Goth qui s'appelle Ulfila, qui s'en va visiter l'Empire romain. C'est un homme très intelligent et qui va se faire baptiser, convertir, ordonner, sacré évêque. Mais cet Ulfila se fait baptiser par Eusèbe de Nicomédie, qui est arien. Et par conséquent, Ulfila va être lui-même un évêque arien. Et aussitôt sacré évêque, il va retourner dans son pays, son peuple, il va retourner chez les Goths. Et Ulfila est certainement quelqu'un, non seulement de très intelligent, mais extrêmement dévoué. Ça, il ne faut pas lui jeter la pierre. Il a été, disons, trompé dès son départ, mais il a été un missionnaire d'une importance incroyable, puisqu'il va parvenir à convertir pratiquement tous les Goths, et tous les Goths qui étaient païens, et pratiquement toutes les peuplades germaniques qui vont être les invasions, il va les convertir au christianisme, mais pratiquement à l'arianisme aussi. C'est-à-dire que lors des grandes invasions, les invasions germaniques seront le fait de chrétiens, déjà. Ce ne sont pas du tout des païens qui vont envahir l'Empire romain. Ce sont des chrétiens, mais ce sont des Ariens. Et ça aura une très grande importance à ce moment-là. Et en réalité, l'arianisme se prolongera très longtemps en Occident. La fin de l'arianisme sera lieu en Espagne en 587, vous voyez, longtemps après. Ce sera par la conversion de Récared, le roi wisigoth. Mais il y avait eu deux coups très importants qui avaient été portés à l'arianisme en Occident. D'une part, en 361, le concile de Lutèce ou de Paris, où Saint-Hilaire, ami intime de Saint-Martin, va ramener l'épiscopat gaulois à l'orthodoxie, à la foi nicéenne. Et pratiquement à partir de ce moment-là, disons depuis 361 jusqu'au baptême de Clovis, il n'y aura plus ou pratiquement plus d'évêques ariens en Gaule, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis il y aura le grand coup contre les ariens aussi, ça va être le baptême de Clovis. En 496 ou 499, les historiens ne sont pas d'accord sur la date, mais enfin, ça n'a pas d'importance, c'est l'essentiel, c'est que le baptême ait eu lieu. En réalité, ce sont les peuplades germaniques qui envahissent l'Empire romain, et en particulier l'Empire romain d'Occident, qui vont réintroduire cette fois l'arianisme en Occident. Qui vont le faire perdurer, dit, jusqu'à la fin du VIe siècle. Et notez bien que l'arianisme convient fort bien au peuple germanique. L'arianisme est en quelque sorte, si on veut, à beaucoup de différences près, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais à beaucoup de différences près, une préfiguration très lointaine du protestantisme. Et tout le monde sait que Luther était allemand, mais aussi on trouve dans les hérésiarques, ou plus ou moins hérésiarques actuels, des noms de Schillebecq, de Krug, de Kuhn, de Devermann, par exemple, qui sont originaires de ces pays. Bon, je n'en veux pas aux Allemands, bien loin de là, mais je pense qu'il y a une tendance germanique à vouloir à tout prix rationaliser la religion. Hein. C'est bien cela que je voulais dire, et en fait, l'arianisme, c'est une religion rationaliste. Une caractéristique de l'arianisme, c'est une hérésie qui a été installée par les intellectuels, qui a été entretenue par les évêques et, disons, presque tous les évêques du temps. Et en fait, il y a beaucoup de rapports avec la situation actuelle. Et en réalité, ce que je voulais vous dire, et c'est la deuxième partie de ma conférence, si le père Marzia veut bien m'accorder jusqu'à midi un quart, puisque j'ai commencé à 11h15, tout ira bien. Donc, dans la deuxième partie de la conférence, je vais vous parler du réveil de l'arianisme dans l'actualité. Il y avait les chrétiens, face à l'arianisme, au IVe siècle, il y avait trois attitudes des chrétiens. D'une part, il y avait les ariens absolus, très intolérants, persécuteurs. Il y a eu beaucoup d'exil, et en particulier l'évêque d'Alexandrie, le malheureux évêque d'Alexandrie, Athanase, a été exilé au moins 5 fois, ce qui lui a permis d'ailleurs de rencontrer Saint-Martin, exilé à Trèves, Les deux hommes se sont rencontrés. Athanase était déjà un homme d'âge mûr, sinon un vieillard. Saint-Martin était un tout jeune homme, il venait d'être juste libéré des obligations militaires. Et ils se sont rencontrés à Trèves, sur les bords de la Moselle. Mais Athanase n'est pas le seul, même les papes ont été quelquefois exilés, ou du moins fortement ennuyés, par les Ariens. Donc des profanations, des viols, des assassinats, il y a eu une persécution arienne extrêmement violente. D'autre part, nous avons un autre groupe, c'était les Nicéens, je les appelle Nicéens pour ne pas les appeler catholiques, parce que catholiques n'avaient pas exactement le même sens que nous leur avons donné à l'heure actuelle. Les Nicéens, c'est d'ailleurs ceux qui sont fidèles au concile de Nicée. C'est un petit noyau à cette époque, un petit noyau qui reste fidèle, mais qui a la chance d'avoir de très grands hommes à sa tête. Ces très grands hommes, ces très grands saints que vous avez ici à la troisième page de vos feuilles. Vous avez en Occident Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Ambroise de Milan, Saint-Jérôme, Saint-Augustin, Saint-Paul-en-Mel, ce n'est pas rien tous ces gens-là, plus Saint-Martin bien entendu. Saint-Martin que je n'ai pas cité puisque c'est le sujet de cette conférence. Et vous avez aussi les semi-ariens, ceux qui disent « tenons-nous sur le fil de rasoir entre les deux », il y en avait beaucoup. Ceux qui proposent des formules ambiguës. Alors il y a eu de très nombreux conciles qui ont dit, attention, le Père et le Fils sont d'une substance semblable, c'est-à-dire homo iousios en grec, mais ils ne sont pas consubstantiels, c'est-à-dire homo iousios. Et on disait, ben, les voilà qui se disputent pour un iota. Entre les deux mots, il n'y a que la différence d'un i, un iota en grec. Mais, substance semblable, cela aboutit au trithéisme, aux trois dieux, trois substances divines dans la Trinité. Donc, en réalité, les semi-ariens sont en réalité des ariens qui veulent tromper l'ennemi en se déguisant plus ou moins. Et on trouve un petit peu la même division dans l'Église actuelle. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on a les trois. Et remarquez que dans l'Église officielle actuelle, on a de très nombreuses résurgences ariennes. En particulier dans le credo. Le mot consubstantiel, dans la traduction moderne du credo, le mot consubstantiel, dans la traduction française, a été banni. On dit « de même nature que le Père ». Et « de même nature que le Père », bon, ça ne choque pas les gens, la plupart, parce qu'on ne réfléchit pas, mais en réalité, « de même nature que le Père », ce n'est pas, c'est une formule arienne, absolument. Et beaucoup de pères ont formulé des objections en disant « mais ce n'est pas logique, ce n'est pas normal que l'on traduise par « de même nature que ». Et on répondait « mais oui, mais consubstantiel, les gens ne comprennent pas ». Alors, comme ils ne comprennent pas, il vaut mieux leur dire « quelque chose qui est juste, mais qui risque d'être mal compris, on va proclamer l'hérésie. » Et dans ce petit livre que je vous recommande, qui est peut-être épuisé à l'heure actuelle, ce petit livre qui est signé par Hugues Kerali, publié chez Dominique Martin Morin et qui s'appelle « Présence d'Arius », Il cite, Mitterrani cite l'évêque d'Avignon, Monseigneur Bouchex, qui déclare que cette traduction est inadéquate, effectivement, mais que l'ancienne l'était tout autant, en fait, il ne voyait pas la différence entre les deux. En réalité, le Christ, de même nature que le Père, revient à distinguer deux divinités différentes. Kéralis, c'est pas de moi, l'exemple n'est pas de moi, mais il dit deux chats sont de même nature, ils sont tous les deux de la même nature féline. Et par conséquent, deux chats sont de même nature, mais ils sont bien distincts. Ce sont deux chats, il y a un chat blanc et un chat noir, qui sont de même nature. Ils ne sont pas un même chat en deux animaux. Hein. Donc, il ne s'agit pas là, vous voyez, comme ce même, cet iota, voilà, n'est pas une petite argutie philosophico-théologique sans la même importance. Il y a eu des dérivés de cette hérésie au IIIe siècle. Sabellius, avant Arius, Sabellius faisait du Christ un vrai Dieu qui avait revêtu l'apparence humaine. Vrai Dieu et faux homme. Au Ve siècle, Nestorius, donc, au siècle de Clovis, fait l'affirmation inverse. Jésus-Christ est un homme qui devient Dieu par une grâce spéciale. Par conséquent, Jésus-Christ est un faux Dieu et vrai homme. Le Christ d'Arius, lui, est un faux Dieu, puisqu'il a été créé, et un faux homme, puisqu'il est créateur. Alors qu'on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il est. Je voudrais vous tracer quelques étapes de l'arianisme moderne. Ça commence en 1965. En 1965, effectivement, première étape, c'est ce que je viens de vous signaler, l'abandon du terme consubstantiel dans la traduction du credo. En 1968, nouveau catéchisme, on nommait Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, on nommait la Vierge Mère de Dieu, et on nommait le péché originel. Ça fait déjà pas mal. 1970, donne une nouvelle traduction de l'épître du dimanche des Rameaux. Voici ce que dit Kéralis, page 59. Ancienne traduction de cette épître. Le Christ était Dieu. Et pourtant, il n'a pas jugé devoir garder jalousement ses droits d'égalité avec Dieu. Au contraire, il s'est anéanti lui-même, il a pris la condition d'esclave, il s'est rendu semblable aux hommes. Nouvelle traduction. Le Christ Jésus est l'image de Dieu. Mais il n'a pas voulu conquérir de force l'égalité avec Dieu. Ah oui. Au contraire, il s'est dépouillé, devenant l'image même du serviteur et se faisant semblable aux hommes. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. 1975, Paul VI déclare que Vatican II, le Concile Vatican II, est plus important que le Concile de Nicée. C'est quelque chose qui avait déjà été demandé au pape Libère au IVe siècle, après le concile de Rimini. Le concile de Rimini qui était un concile qui avait été favorable à l'arianisme. Et on avait demandé au pape Libère de proclamer hautement que le concile de Rimini était plus important que le concile de Nicée. Et Libère n'avait pas voulu le faire. Là, il y a quelque chose de plus qui a été fait. Dans les traductions du Nouveau Missel en 1980, on ne parle plus de miracle, mais de signe. C'est différent. Il s'agit là de dédiviniser Jésus-Christ. Toujours en 1980, traduction, nouvelle traduction de la Passion selon Saint-Luc. Pilate demande à Jésus, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Réponse de la nouvelle traduction, « C'est vous qui dites que je le suis. » Nouvelle traduction de la Passion selon Saint-Jean. Pilate, es-tu le roi des Juifs? C'est toi qui dis que je suis roi. Ancienne traduction, tu l'as dit, je le suis. Voyez la différence. Autre déclaration arienne très fréquente qui a été répandue par Kung, par Pellier, qui a été reprise, paraît-il, par Mgr Huyghe, évêque d'Arras, c'est la conscientisation progressive de la divinité du Christ. C'est-à-dire que le Christ, au début de sa mission, ne savait pas qu'il était Dieu. Il savait qu'il était un homme comme les autres, et puis peu à peu, probablement en disant, tiens, je fais de nombreux miracles, comment ça se fait? Il se passe quelque chose, ah mais je serai peut-être Dieu. Donc en réalité Jésus-Christ, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment Dieu puisqu'il ne savait rien. Bon, alors c'est quand même assez curieux. Ensuite, l'œcuménisme arien. Arius voulait concilier le christianisme et le judaïsme. En réalité, en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il donnait raison aux Juifs. Et ceci est repris en quelque sorte par l'œcuménisme moderne qui veut réduire les différentes religions à leur degré le plus bas, à leur plus petit commun diviseur, pour leur permettre de s'entendre entre elles. Et cela, bien entendu, toujours au détriment de la religion catholique. Donc on doit s'entendre avec n'importe quelle religion, islam, bouddhisme, protestantisme, animisme, etc., pourvu qu'elle ne soit pas catholique, on va persécuter les vrais catholiques à cause de cela. Ajouter que les Ariens célébraient leur messe en langue vernaculaire, et avaient horreur du latin, et ajouter le fait que beaucoup d'évêques, à ce moment-là, disons, n'osaient pas se proclamer ni l'un ni l'autre, d'un côté ou de l'autre. Alors, il y avait quelque chose en particulier, un certain évêque Léonce, qui est mort en 357, qui était évêque de d'Antioche, pardon, et qui devait choisir entre les deux formules, simplement pour commencer la messe, la formule arienne, au nom du Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit, ou la formule nicéenne, qui est la nôtre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, paraît-il, je n'y étais pas, évidemment, puisque 357, je n'étais pas encore né, et il s'en fallait encore de beaucoup, mais il paraît que Léon se disait au nom du Père, Saint-Esprit. Bon, ce qui fait que tout le monde pouvait entendre à peu près ce qu'il voulait. Et on constate que maintenant, bon, on a dans le nouvel Ordo Missae, on a maintenu la fête de la Sainte Trinité, mais on a supprimé presque toutes les invocations trinitaires. Et précisément pour la fête de la Sainte Trinité, on a introduit un hymne Père, louange au Dieu vivant, au Père, par le Fils, en l'Esprit Saint, qui nous rend frères. C'est très exactement la formule arienne, au nom du Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit, qui s'oppose à la formule nicéenne. Bien, alors voilà, je vais terminer pratiquement avec l'arianisme, vous voyez, je vais même en avoir fini un tout petit peu plus tôt que prévu, que ce que j'avais demandé. Je voudrais vous parler d'autres, quand même, d'autres hérésies qui ont eu lieu au IVe siècle, dont une très importante en ce qui nous concernera, c'est en ce qui concerne cet après-midi, c'est-à-dire Saint-Martin en particulier, c'est le priscillianisme. Mais enfin, je vais passer un petit peu en revue plusieurs hérésies qui nous concernent toutes plus ou moins, qui ne sont pas tout à fait mortes, aucune de celles-là. Tout d'abord, le gnosticisme, la gnose. Le gnosticisme veut remplacer la foi par la gnose, c'est-à-dire la parfaite connaissance de Dieu. Et les gnostiques pensent qu'il y a coexistence de deux principes, le bon et le mauvais, Dieu et la matière, ce qui explique l'existence du mal. Donc le monde matériel qui est mauvais n'a pas été créé par Dieu, mais par des êtres supérieurs, qui sont que l'on appelle des démiurges ou des éons. Et pour que l'homme se dégage de la matière, pour aider l'homme à se dégager de la matière et à entrer dans la spiritualité, Dieu lui a envoyé un éon, un démiurge particulier qui s'appelle le Christ, qui n'a qu'une apparence de corps, mais ce n'est qu'une apparence. Et alors les gnostiques, qui recommande l'ascèse, il prêche une connaissance élitiste, et le priscillianisme, dont on reparlera assez longtemps cet après-midi, à cause de Saint-Martin, le priscillianisme, qui est une hérésie qui est née en Espagne, précisément à l'époque de Saint-Martin, n'est qu'un dérivé de la gnose. Et la gnose est extrêmement développée à l'heure actuelle. Voyez pour cela les ouvrages d'Étienne Couvert. Il a publié au moins 3 volumes, sinon 4, sur la gnose et la gnose actuelle. C'est publié aux éditions de Chiré. Autre hérésie très importante à l'époque, le manichéisme. Manichéisme, existence de deux forces éternelles antagonistes, ça rejoint un petit peu la gnose par certains aspects, c'est extrêmement vivant à l'heure actuelle, en particulier dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, les maçons sont extrêmement manichéens, parce que si on veut bien y réfléchir, la franc-maçonnerie n'est pas une secte rationaliste ou athée, c'est une religion. Je ne m'y attendrai pas aujourd'hui parce que ça demanderait des heures d'exposé. Le millénarisme, c'est la croyance en la réapparition du Christ au bout de 1000 ans. C'est très fréquent dans de nombreuses sectes actuelles et on se voit de nombreuses résurgences à l'approche du troisième millénaire. L'unitarisme refuse absolument l'idée de la Trinité. C'est quelque chose qui est proche de l'arianisme, c'est-à-dire Dieu est un tout seul et puis c'est tout. C'est proche de l'islam aussi d'ailleurs, où on ne voit qu'un seul Dieu, Dieu est un tout seul, et il ne peut pas avoir de différents aspects ou d'autres personnes dans son unité. Le macédonianisme, c'est une conséquence de l'arianisme, négation de la divinité du Saint-Esprit. Le nestorianisme, lui, je vous en ai déjà dit un mot tout à l'heure, voit deux personnes, la personne divine et la personne humaine, dans le Christ. Et les Nestoriens disent que la Sainte Vierge n'est mère que de Jésus-Christ homme, mais elle n'est pas mère de Dieu. Vous voyez la nuance des choses. En bref, les différentes hérésies du IVe siècle ont pour origine. Alors, tout d'abord, les difficultés que rencontre la raison humaine devant le dogme de la Sainte Trinité. Et on cherche à tourner ces difficultés pour obtenir quelque chose de rationnel, et on fait des raisonnements spécieux. Voilà la première raison. Deuxième raison, c'est le problème du mal. Dieu est bon, alors pourquoi le mal existe-t-il? Et ces deux problèmes-là existent, se posent toujours aux esprits actuels, et les mêmes erreurs en découlent. Donc, la situation de l'Église au IVe siècle, l'Église dans laquelle vivait Saint Martin, est très proche, et très proche de la nôtre. C'est ce que je vous annonçais au début de ma conférence, et maintenant que je la termine, voilà que je corrobore. Nous avons des conciles qui aboutissent à des doctrines hérétiques, des évêques qui retournent leur veste, leur chasuble, ce sont, disons, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce sont les mêmes évêques qui siégeaient à Nicée et qui condamnaient l'arianisme, et qui siégeaient aux différents conciles dont vous avez la liste là, à celui de Rimini, à celui d'Arles, etc., qui étaient favorables à l'arianisme. C'était les mêmes. Alors il disait blanc un jour, noir le lendemain. Et persécution, intimidation à l'égard des lycéens, entente avec les autres religions ou hérésies, ambiguïté des formules, vulgarisation de la religion au point de retirer la divinité au Christ. Une différence importante, tout ça on l'a en ce moment, hein, c'est bien ça. Une différence importante, jamais aucun pape n'a adhéré formellement à l'arianisme. Vous avez ici la liste des papes qui se sont succédés pendant la vie de Saint Martin. Vous constaterez qu'ils sont pratiquement tous saints, sauf un qui s'appelle Libère, justement. Les papes des premiers siècles ont tous pratiquement été proclamés saints, à quelques expressions près. Pourquoi ce malheureux Libère n'est-il pas saint? Eh bien, Libère était évidemment un pape nicéen, catholique, convaincu. Il a été persécuté par les Ariens et par les évêques ariens de Rome qui ont voulu lui faire adopter un credo arien et qui l'ont exilé jusqu'à ce qu'il change de vie, par conséquent. Donc Libère s'est très vaillamment comporté devant les Ariens parce qu'il n'a pas cédé. Libère à la rigueur pourrait être proclamé saint, pape et martyr même, puisqu'il a résisté de façon, il n'a pas été martyrisé, il n'a pas été ni crucifié ni décapité. Mais enfin, il a eu de très gros ennuis. Néanmoins, tout à fait à la fin de son épiscopat, et pour quand même arriver à la fin de son exil, il a été jusqu'à adopter une formule disant que le Christ était semblable au Père. Bon, semblable au Père, ça peut être compris de deux façons. Ça peut être compris de la façon d'Israël et ça peut être compris de la façon arienne. Alors, ce malheureux libère, on lui a dit, bon, ben maintenant que tu as signé ça, retourne à Rome. Et surtout, condamne une nouvelle fois Athanase et condamne-le à l'exil. Alors cet Athanase, qui était le grand évêque d'Alexandrie, le grand évêque intraitable, a été une fois de plus exilé, et il a fait que ça pratiquement dans sa vie, mais et une fois et exilé, cette fois-ci, par ordre du pape. Voilà en fait la raison pour laquelle le Liber n'est pas saint. Conclusion à tout cela, ben, ma foi, il faut garder espoir. C'est pas la première fois que l'Église subit une crise majeure, elle s'en est tirée. Ce n'est pas la première fois qu'un pape compose avec l'hérésie, que ce n'est pas la première fois qu'il condamne même un évêque orthodoxe. Et bon, l'Église s'en est tirée aussi. Et Athanase s'en est très bien tiré aussi, d'ailleurs. Parce qu'Athanase n'a pas été martyrisé. Hein. Non plus, il n'a pas. Il est mort de sa belle mort. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Enfin, pour ce matin.
Je remarque à cette excellente conférence de M. le professeur une vraiment très simple, mais qui nous en dit long sur la façon dont lentement on nous a fait avaler le progressisme actuel. C'est un fait qui s'est passé à Paris au moment où on a changé le texte du credo. Il y avait Étienne Gilson, je ne sais pas en quelle année il est mort. Bon, non plus. Étienne Gilson était parmi les paroissiens dans une banlieue parisienne, je crois, ou dans une paroisse de Paris. Et un vicaire qui ne connaissait pas Étienne Gilson, qui est, comme vous le savez, un des plus grands philosophes thomistes quand même, contemporain. Alors, il distribuait ce vicaire, probablement pas très théologien quand même, il distribuait la nouvelle formule dans les rangs. Voilà, mes frères, mes sœurs, ce que vous devez maintenant dire au moment du credo. Et alors, Gilson qui voit ce, de même nature que le Père, qu'on avait changé avec consubstantiel, quand le vicaire avait fait sa tournée d'un côté et qu'il revenait de l'autre, il l'arrête et lui dit, Monsieur l'abbé, mais pourquoi avons... Je comprends pas pourquoi on a changé la formule du credo, qui quand même est catholique. Réponse du vicaire, on ne vous demande pas de comprendre, de suivre avec tout le monde. À Étienne Gilson. Il ne se doutait pas qui c'était. Voilà, première remarque. Deuxième remarque, c'est... Non, je fais cette première remarque pour que vous saisissiez comment lentement... On nous a fait dériver. Il faut le dire dans l'Église officielle. Il ne faut pas avoir peur. Deuxième chose que beaucoup ne savent pas, parce qu'on le dit, n'est-ce pas, il y a eu le concile, on ne discute pas le concile. Mais ce professeur nous a bien fait ressortir qu'il y a eu des faux conciles. Ça s'appelle concile. Et l'Église dit non, en particulier Rimini. Et vous avez remarqué toutes les réunions qui se font à Rimini. C'est pas du hasard. Si on réunit tout d'un coup 100 000 jeunes à Rimini, ils disent, voyez-vous, Rimini. Il y a eu faux concile et il n'y a pas eu qu'un. Donc, quand on est au Vatican II, le Vatican II n'a pas eu l'estampille de l'infaillibilité. Jamais un pape n'a dit au contraire que Vatican II n'est pas... Il n'a pas dit, c'est absolument infaillible, il faut y croire, et à la thémacite, ceux qui n'y croient pas. Donc, si Vatican II n'est pas infaillible, il est donc faillible, en bonne logique. C'est tout ce que j'avais à dire, mais que ça complète un peu ce que M. le professeur nous dira ce soir. Je le remercie énormément déjà pour ce qu'il nous a dit ce matin, parce que, j'allais dire, il est très obéissant, excusez-moi. Je lui ai dit, Monsieur le professeur, donnez-nous la situation de l'Église à cette époque-là, pour voir le rapport. Et ça a été très bien fait. Je vous en remercie infiniment, Monsieur le professeur.